Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, ein afrikanische Politik- und Kultursendung. Ich bin Sylvain Amos, am Mikrofon. Viel Vergnügen auf Radio Kanal K. Amis panafricanistes, bonsoir et bienvenue dans Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Merci de votre fidélité. L'intervention militaire au nord du Mali divise beaucoup d'Africains. Au même moment, cette guerre au Mali risque de durer longtemps. Eh bien, pour en parler dans la première partie de cette émission, nous accueillerons dans un instant Tiambel Guimbaria, journaliste à la voix du Mali depuis Paris, et également le panafricaniste Alain Jules, journaliste blogueur. Il sera également en ligne en direct depuis la France. Romain Koudjodi, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Fabi Kwasi, Lucien Mokanli constituent l'équipe de production. Merci de votre fidélité. Merci également à notre radio partenaire Lavra, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne, également les gens des FM à Lomé au Togo. Dans un instant, notre éditorial. Guerre au Mali ou une nouvelle colonisation de la France? Permettez-nous de se souvenir d'une citation du fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Et lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. Également, Hillary Clinton affirmait il y a quelques jours, je cite, les armes que nous avons données aux révolutionnaires libyens à midi hier se retrouvent dans les mains des rebelles au nord du Mali, nos ennemis aujourd'hui. L'intervention de la France au nord du Mali, que nous Africains observons en ces jours, nous amène à des réflexions de fond pour savoir si l'homme africain n'est pas capable de prendre son destin en main pour se défendre lui-même. Il importe de le dire que sans l'intervention de la France, et devant les tergiversations des chefs d'État africains qui ont signé depuis la nuit du temps l'acte de décès de l'ONU, de l'UIA et tout récemment de la CEDEAO, devenus des coquilles vides, et bien le Mali allait connaître une apocalypse lamentable. Dans ce cas, la place du panafricanisme dans le débat africain reste à définir. De loin, nous aurons préféré que la mission qu'accomplissent les soldats français au Mali soit assurée par une armée africaine pour notre souveraineté, comme le soulevait jadis le capitaine Sanogo. Mais la mise en place d'une telle opération avait pris un temps que la coalition djihadiste allait mettre à profit pour s'emparer de la base militaire de Sévéré, dotée d'un aéroport et de la ville de Mpoti. Les conséquences physiologiques et politique d'une telle déroute aurait été désastreuse. L'intervention de l'armée française au Mali est une guerre juste visant à affranchir tout un peuple opprimé et humilié et à libérer les trois quarts du territoire d'un État souverain tombé sous le contrôle des groupes armés étrangers, jadis amis de l'Occident, qui y instaurent une dictature obscurantiste de type moyenâgeux, viol, mariage forcé, femme épousée par plusieurs miliciens, amputation, lapidation jusqu'à la mort, privation des libertés, destruction du patrimoine culturel, plusieurs centaines de milliers de déplacés et de réfugiés. Et bien sûr, aider les Maliens dont l'armée et l'État se sont effondrés à rompre les chaînes de l'oppression, de la barbarie, est un acte de liberté et de démocratie. Mais malheureusement, arrêtons-nous un seul instant pour nous poser seulement deux questions. La France qui se dit qu'elle n'a pas d'amis, mais des intérêts, a-t-elle vu juste? L'intervention au Mali ne signe-t-elle pas l'acte de décès de l'unité africaine d'où le concept du panafricanisme? Si pour la première interrogation, il convient de répondre que le Mali intéresse beaucoup la France, qui a près de 6000 ressortissants sur ce territoire, et que leur rapatriement constituerait un rouleau d'étranglement de l'économie morose de l'Hexagone qui peine à boucler son budget déficitaire, jusqu'à jour d'aujourd'hui, veut chercher une porte de sortie. À cela, bien sûr, vient s'ajouter le fait que la récente découverte du pétrole et de l'or sur ce territoire, donc le Mali, intéresse la France et la guerre n'est pas désintéressée comme on se plaît à le dire. Il convient de dire que pour la deuxième préoccupation, le panafricanisme n'est pas mort, mais est toujours combattu par le colon. Si la France s'est précipitée pour faire cette corvée au Mali, c'est justement pour assumer sa responsabilité de colon. Car, ne l'oublions pas, ce n'est pas les Africains qui prônent l'unité de l'Afrique et qui n'ont même pas une seule usine ou unité de fabrication d'armes qui combattent avec des armes lourdes au nord du Mali. La belle preuve que le panafricanisme n'est pas encore mort, c'est que plusieurs pays africains sont d'avis qu'il faille envoyer des contingents au Mali. Le Tchad de Idriss Déby a déjà envoyé près de 2000 soldats africains. La preuve, c'est que l'Afrique ne dort pas, mais va à son rythme et que par finir, il appartient à la France de Sarkozy et aux Américains qui ont distribué des armes pour tuer Kadhafi, de revenir en Afrique faire la corvée. Ce n'est que la conséquence logique des actes irréfléchis politiquement, et ce n'est d'ailleurs pour rien que les Américains les y aident dans leur corvée. Notre souhait est que cette fameuse guerre finisse le plus rapidement que possible. Alors viendra l'heure de vérité, et la France et les Américains doivent répondre avec clarté et lucidité à autant de questions, en commençant par l'introduction de Hillary au Parlement américain, qui avait affirmé, je cite, « Les armes que nous avons données aux révolutionnaires libyens à mi-d'hier se retrouvent dans les mains des rebelles au nord du Mali, nos ennemis aujourd'hui. » Commencer à briser la vitrine de la démocratie en Afrique. Pourquoi les forces armées africaines et les États se sont-ils effondrés? Pourquoi les colons impérialistes n'ont pas soutenu la démocratie en Afrique? Où étions-nous quand la gangrène de la corruption métastasait? En tant qu'Africains, qu'avons-nous fait et dit quand le narcotrafic prenait l'État malien en otage? Rapidement, que la France fasse le droit à la corvée au nord du Mali, conséquence logique des dommages collatéraux de sa guerre en Libye. Mais les Africains doivent se réveiller et prendre leur destinée en main, comme le disait Jomo Kenyatta. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Et lorsque nous avons ouvert les yeux, les Blancs avaient la terre et nous la Bible.
D'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamu Africa, mon laïan. Manejamu Africa, moi sonyo natange.
VRA, Voix de la Résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Bien, vous êtes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, une émission des débats politiques et culturels africains. Avant de prendre nos invités en direct depuis Paris, le journaliste Tiambel Guimbahara et Alain Jules, qui est également journaliste et panafricaniste, Alain Jules également journaliste blogueur, je vous propose d'écouter l'intervention du député belge. Il s'appelle Louis Laurent. Il est le seul député belge à s'opposer à cette intervention militaire au Mali. Je vous propose d'écouter son intervention et après, nous accueillons en direct depuis la France nos deux invités.
Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, la Belgique est bien le pays du surréalisme. Ce matin, on apprend dans la presse que l'armée belge est incapable de lutter contre les quelques militaires extrémistes aux convictions islamistes radicales qui existe en son propre sein et qu'il est impossible de les licencier faute de moyens juridiques suffisants. Et par contre, dans un même temps, nous décidons d'aider la France dans sa lutte contre le terrorisme en lui apportant une aide logistique pour son opération au Mali. Que ne ferions-nous pas pour lutter contre le terrorisme en dehors de nos frontières ? J'espère juste que nous aurons bien veillé à ne pas envoyer pour cette opération antiterroriste au Mali ces fameux soldats belges islamistes. Je le dis sous la forme de l'humour, mais ce qui se passe actuellement dans le monde ne me fait pas rire du tout. Ça ne me fait pas rire car sans aucun doute, les dirigeants de nos pays occidentaux sont en train de pendre les peuples pour des imbéciles avec l'aide et le soutien de la presse qui n'est plus aujourd'hui qu'un organe de propagande des pouvoirs en place. Un peu partout dans le monde, les interventions militaires et les déstabilisations de régimes deviennent de plus en plus fréquentes. La guerre préventive est devenue la règle Et aujourd'hui, au nom de la démocratie ou de la lutte contre le terrorisme, nos États s'octroient le droit de violer la souveraineté de pays indépendants et de renverser des dirigeants légitimes. Il y a eu l'Irak et l'Afghanistan, ces guerres du mensonge américain. Sont venues par la suite la Tunisie, l'Égypte, la Libye, où, grâce à vos décisions, notre pays a participé en première ligne à des crimes contre l'humanité pour renverser à chaque fois, des régimes progressistes et modérés et pour les remplacer par des régimes islamistes dont, et c'est quand même bizarre, la première volonté fut d'imposer la charia. Il en est de même actuellement en Syrie, où la Belgique finance honteusement l'armement des rebelles islamistes qui tentent de renverser Bachar al-Assad. Ainsi, en pleine crise économique, alors que de plus en plus de Belges ont des difficultés pour se loger, se nourrir, se chauffer ou se soigner, et oui, j'entends déjà le sale populiste que je suis, eh bien le ministre des Affaires étrangères, il a décidé d'offrir aux rebelles syriens 9 millions d'euros. Bien sûr, on tentera de nous faire croire que cet argent servira à des fins humanitaires, un mensonge de plus. Et comme vous le voyez, depuis des mois, notre pays ne fait que participer à la mise en place de régimes islamistes dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Alors, quand on vient prétendre partir en guerre pour lutter contre le terrorisme au Mali, eh bien, j'ai bien envie de rire. C'est faux. Sous des apparences de bonnes actions, nous n'intervenons que pour défendre des intérêts financiers, dans une totale logique néocolonialiste. Il n'est véritablement pas cohérent de partir aider la France au Mali au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste, lorsqu'au même moment, on soutient en Syrie le renversement de Bachar al-Assad par des rebelles islamistes qui souhaitent imposer la charia, comme c'est déjà le cas en Tunisie ou en Libye. Il faut vraiment arrêter de nous mentir et de prendre les gens pour des imbéciles. Le temps est au contraire venu pour dire la vérité. En armant les rebelles islamistes comme les Occidentaux ont auparavant armé Osama Ben Laden, cet ami des Américains avant qu'il ne se retourne contre lui, eh bien les pays occidentaux en profitent pour implanter dans les nouveaux pays conquis des bases militaires tout en favorisant leurs entreprises nationales. Tout est donc stratégique. En Irak, nos alliés américains ont mis la main sur les richesses pétrolières du pays. En Afghanistan, ce fut sur l'opium et la drogue, toujours très utile, pour se faire beaucoup d'argent assez rapidement. En Libye, en Tunisie, en Égypte ou encore en Syrie, le but fut et est encore actuellement de renverser les pouvoirs modérés pour les remplacer par des pouvoirs islamistes qui très rapidement deviendront gênants et que nous attaquerons sans vergogne sous prétexte de lutter à ce moment-là encore contre le terrorisme ou de protéger Israël. Et dont les prochaines cibles sont déjà connues. Dans quelques mois, je prends le pari que nos regards se tourneront vers l'Algérie et finalement vers l'Iran. Faire la guerre pour libérer des peuples d'un agresseur extérieur, c'est noble. Mais faire la guerre pour défendre les intérêts des États-Unis, faire la guerre pour défendre les intérêts de grosses sociétés comme Areva, faire la guerre pour mettre la main sur des mines d'or, ça n'a rien de noble. Et cela fait de nos pays des pays agresseurs et voyous. Personne n'ose parler, mais qu'à cela ne tienne, je ne me tairai pas. En temps, et tant pis si ma lutte doit me faire passer pour un ennemi de ce système qui bafoue les droits de l'homme au nom des intérêts financiers, géostratégiques et néocolonialistes. Bafouer ce régime et le dénoncer, c'est un devoir et une fierté pour moi. Et sincèrement, et je m'excuse pour le vocabulaire populaire utilisé, j'emmerde tous les soi-disant bien-pensants, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, qui sont aujourd'hui au basque de nos pouvoirs corrompus et qui se plairont à me tourner en ridicule. J'emmerde nos dirigeants qui jouent avec leurs bombes comme des gamins dans une cour de récréation. J'emmerde ceux qui prétendent être des démocrates alors qu'ils ne sont que des criminels de bas étage. Je n'ai pas beaucoup de respect non plus pour les journalistes qui ont le culot de faire passer les opposants pour des débiles mentaux alors qu'au fond ils savent très bien que ces opposants ont parfaitement raison. Je méprise enfin au plus haut point ceux qui se prennent pour les rois du monde et qui nous dictent leurs lois, car moi je suis du côté de la vérité, du côté de la justice, du côté de ces victimes innocentes du pognon à tout prix. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'opposer clairement à cette résolution qui envoie notre pays soutenir la France dans son opération néocolonialiste. Depuis le début de l'opération française, le mensonge est organisé. On nous dit que la France ne fait que répondre à l'appel au secours d'un président malien. On en oublierait presque que ce président n'a aucune, mais aucune légitimité et qu'il a été mis en place pour assurer la transition suite au coup d'État de mars 2012. Qui a soutenu ce coup d'État? Qui en est à la base? Pour qui travaille ce président de transition? Voilà le premier mensonge. Le président français François Hollande ose prétendre mener cette guerre pour lutter contre les djihadistes qui menacent, oh, ils menacent, rendez-vous compte, le territoire français et européen. Mais quel vilain mensonge! En reprenant cet argument officiel, tout en profitant pour effrayer la population, en augmentant le niveau de la menace terroriste, en mettant en œuvre le plan Vigipirate, nos dirigeants et les médias font preuve d'un culot inimaginable. Comment peut-on oser sortir un tel argument alors que la France et la Belgique n'ont pas hésité à armer et soutenir les djihadistes en Libye et que ces mêmes pays continuent actuellement à soutenir ces djihadistes en Syrie? Ces prétextes ne servent qu'à cacher des desseins stratégiques et économiques. Nos pays n'ont même plus peur de l'incohérence, car tout est fait pour la cacher. Mais l'incohérence est pourtant bien présente. Ce n'est pas demain que vous verrez un Malien venir commettre un attentat en Europe. Non, à moins qu'on en crée un subitement pour mieux justifier encore cette opération militaire. On a bien créé le 11 septembre pour justifier l'invasion, l'arrestation arbitraire, la torture et le massacre de populations innocentes. Alors créer un terrorisme malien, bon, ça ne doit pas être trop compliqué pour nos dirigeants sanguinaires. Un autre argument utilisé pour justifier ces derniers mois les opérations militaires, c'est la protection des droits de l'homme. Ah, cet argument est encore utilisé aujourd'hui pour justifier la guerre au Mali. Mais oui, nous devons agir, car sinon les méchants islamistes radicaux vont imposer la charia au Mali, lapider les femmes et couper les mains des voyous. Oh, c'est vrai que l'intention elle est noble, noble et salvatrice, c'est sûr. Mais pourquoi alors? Mais pourquoi, bon Dieu, nos pays ont-ils alors participé à l'accession au pouvoir en Tunisie et en Libye d'islamistes qui ont décidé d'appliquer cette charia dans ces pays qui étaient, il n'y a pas si longtemps de cela encore, modernes et progressistes? Je vous invite à demander aux jeunes Tunisiens qui sont à la base de la révolution en Tunisie s'ils sont heureux de leur situation actuelle. Tout cela, c'est de l'hypocrisie. L'objectif de cette guerre au Mali est très clair. Et puisqu'on n'en parle pas, je vais en parler. L'objectif, c'est de lutter contre la Chine et permettre à notre allié américain de maintenir sa présence en Afrique et au Moyen-Orient. C'est cela qui guide ces opérations néocolonialistes. Et vous verrez, quand l'opération militaire sera terminée, la France conservera bien entendu des bases militaires au Mali. Ces bases serviront aussi aux Américains. Et en même temps, parce que ça se passe toujours comme ça, des sociétés occidentales mettront la main sur des contrats juteux qui priveront de nouveau les pays recolonisés de leurs richesses et de leurs matières premières. Alors, soyons bien clairs, les premiers bénéficiaires de cette opération militaire, ce seront les patrons et les actionnaires du géant français Areva, qui tentent depuis des années d'obtenir l'exploitation d'une mine d'uranium à Faléa, une commune de 17 000 habitants située à 350 km de Bamako. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'il ne faudra pas longtemps pour qu'Areva puisse enfin exploiter cette mine. Je ne sais pas, c'est une impression que j'ai. Il est donc hors de question que je participe à cette colonisation minière, cette colonisation des temps modernes. Et pour ceux qui doutent de mes arguments, je les invite sincèrement à se renseigner sur les richesses du Mali. Le Mali est un grand producteur d'or, mais depuis peu, il a été désigné, depuis peu, comme étant un pays qui offre un environnement de classe mondiale pour l'exploitation d'uranium. Mais comme c'est bizarre, un pas de plus vers une guerre contre l'Iran, c'est une évidence. Pour toute cette raison, et afin de ne pas tomber dans les pièges du mensonge que l'on nous tend, j'ai décidé de ne pas soutenir cette intervention au Mali. Je voterai donc contre. Et ce faisant, je fais preuve de cohérence, puisque je n'ai jamais soutenu par le passé nos interventions criminelles en Libye ou en Syrie, me profilant de la sorte comme le seul parlementaire de ce pays à défendre la non-ingérence et la lutte contre les intérêts obscurs. Je pense vraiment qu'il est grand temps de mettre un terme à notre participation à l'ONU ou à l'OTAN et de sortir de l'Union européenne si cette Europe, au lieu d'être un gage de paix, devient une arme d'attaque et de déstabilisation de pays souverains aux mains d'intérêts financiers et non plus humanistes. Enfin, je ne peux qu'encourager notre gouvernement à rappeler au président Hollande les obligations qui résultent de la Convention de Genève en matière du respect des prisonniers de guerre. J'ai en effet été outré d'entendre à la télévision, de la bouche du président français, que son intention était de détruire, je dis bien détruire, les terroristes islamistes. Alors je ne voudrais pas que la qualification utilisée pour nommer les opposants au régime malien, c'est toujours pratique hein, aujourd'hui de parler de terroristes islamistes, soit utilisée pour contourner les obligations de tout État démocratique en matière de respect des droits des prisonniers de guerre. Nous attendons un tel respect de la patrie des droits de l'homme. Enfin, et pour terminer, permettez-moi de souligner la légèreté avec laquelle nous décidons de partir en guerre. Tout d'abord, le gouvernement agit sans la moindre autorisation du Parlement. Il paraît qu'il en a le droit. Il envoie du matériel, des hommes au Mali. Le Parlement réagit par la suite. Et quand il réagit, comme aujourd'hui, eh bien, cette institution n'est composée que d'un tiers de ses membres. Encore beaucoup moins si on parle des élus francophones. C'est donc une légèreté coupable qui ne m'étonne pas vraiment, venant d'un Parlement de toutou soumis aux diktats des partis politiques. Je vous remercie.
VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. TogoCity.com, IssyLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Eh bien, merci de votre fidélité. Bien évidemment, nous sommes la voix des opprimés. Merci d'être en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse Almanique. Et comme annoncé en début de cette émission, nous avons déjà en ligne, en direct depuis la France, depuis Paris, deux journalistes. Le premier, Tiambel Guimbayara, il est journaliste à La Voix du Mali. Et l'autre, Alain Jules, il est également journaliste, blogueur et panafricaniste. Eh bien, je vais adresser la toute première question au journaliste malien, Tiambel Guimbayara. J'espère que vous venez d'écouter ce député belge, Louis Laurent. Louis Laurent, qui est le seul député, en effet, à s'opposer à l'intervention militaire de la France au Mali. Et il a également mis à nu le système de la France et des États-Unis sur la guerre en Libye. Alors, quelle est votre réaction et comment analysez-vous l'opération Serval au Mali? Tiambel Guimbayara, bonsoir.
Bonsoir, Amos. Bonsoir aux auditeurs de Canal K. Ce qui est en cause au Mali, c'est une guerre contre les principes et contre les valeurs. Contre certains principes qui prônent l'obscurantisme, qui prônent la haine, qui prônent l'intolérance. Pour des principes de laïcité, de république, de démocratie, de paix et de développement. Voilà les principes qui se font face un peu dans cette guerre au Mali. Nous sommes dans une situation exceptionnelle où des hommes et des femmes imbus d'une certaine, de certaines valeurs qui ne sont pas reconnues par la majorité des populations veulent museler, s'imposer à toute une population. Nous sommes dans des conditions exceptionnelles où un État qui a existé sur des empires, qui est héritier des empires et qui s'est bâti une démocratie depuis 20 ans se trouve envahie de cette manière avec des obscurantistes qui ne lésinent sur aucun moyen de privation de liberté en passant par sévices, en passant par des brimades, en passant par la destruction de tout un patrimoine culturel. Voilà ce à quoi on fait face au Mali et voilà ce à quoi la situation appelle et interpelle plus d'un par rapport à la situation. J'ai écouté le député, monsieur le député, mais il se trompe. Kenyeba est à l'opposé du Nord. Et à ce que je sache, il n'y a pas d'uranium est reconnu comme tel dans cette région qui est aujourd'hui en proie à l'obscurantisme, à la guerre des narcotrafiquants.
Merci pour vos développements. Nous allons également poser presque la même question à notre invité Alain Jules, journaliste blogueur en France. Alors Alain Jules, bonsoir.
Bonsoir Amos, bonsoir à tous les auditeurs.
Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique et merci beaucoup puisque vous êtes souvent sur ce plateau avec nous en direct depuis Paris, très souvent dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci beaucoup Alain Jules. Alors j'espère que vous avez également suivi et la déclaration, mais l'intervention du député belge Louis Laurent et qui qualifie et cette guerre au Mali d'une guerre néocolonialiste. Alain Jules.
Il a tout dit, le député belge, il a tout dit. Ce que les gens, on va dire en majorité, savent réellement, parce que le problème, il est tout à fait simple. J'ai entendu tout à l'heure le confrère dire que voilà, on lutte contre cette guerre-là, c'est contre l'obscurantisme. Alors, si c'était vrai, si on savait que ces gens-là, appelés aujourd'hui terroristes, sont vraiment dangereux pour le Mali, je crois que dès la prise de la première ville normalienne, les forces françaises devaient intervenir. Pourquoi avoir attendu que la situation se dégrade? Chercher l'erreur. Donc, forcément, moi, quand j'entends certains Maliens que je connais à Paris, des Africains, croient vraiment mordicus que c'est pour leurs beaux yeux que les Français sont allés intervenir au Mali, je me dis qu'on a affaire à une arnaque, mais pas possible, qui passe surtout. Parce que plus c'est gros, plus ça passe. Du jour au lendemain, Hollande se lève un matin, il dit non, il faut aller intervenir au Mali. Mais ça fait un an que ces gens-là sont en Mali. Pourquoi on n'a rien fait? Ça, c'est la vraie question. Et si vous essayez de répondre à cette question-là, vous comprenez tout le stratagème. Tout le stratagème, c'est-à-dire que du néocolonialisme, c'est simplement parce que c'est une frontière, ces gens, une frontière avec le Niger. Et par conséquent, l'uranium, c'est la guerre de l'uranium. Il faut sécuriser cet endroit-là. Si ces mecs progressent, ils vont se retrouver au Niger. C'est tout. La France n'est pas au Mali pour les beaux yeux des Africains, pour les beaux yeux des Maliens. C'est pour ses intérêts propres. Il n'y a pas d'autre explication possible. Et les qui sont à l'origine de cette situation en Mali? On ne le dira jamais assez. C'est la France. C'est Sarkozy qui a distribué des armes, parce que hypocritement, ils nous disent que voilà, ces gens ont saccagé l'armement de feu Muammar Kadhafi, mais il n'en est rien.
Merci.
Si on n'attaquait pas Kadhafi, on n'en serait pas là.
C'est
la vraie raison.
Exactement, on va également demander et notre ami journaliste malien Tiambel Guimbaera, qui est journaliste à La Voix du Mali, s'il partage également votre avis. Et Tiambel Guimbaera, les opinions se partagent au sein même des Maliens, hein, ça Alain Jules vient de le soulever, et même également au sein des Africains. Et certains pensent que le capitaine Sanogo et que la France, comme le capitaine Sanogo, hein, qui disait que la France doit aider plutôt en logistique le Mali pour chasser les islamistes au nord et d'autres panafricains, approuvent l'initiative de la France, mais émettent aussi des réserves. Quelle est votre position, Tiambel Guimbaera?
Oui, mais je pense qu'il faut un peu rappeler le contexte dans lequel la France est intervenue au Mali. La France est intervenue après le vote d'une résolution au niveau des Nations Unies qui balisait un schéma selon lequel ce sont les troupes africaines qui vont aller de libérer le nord du Mali des mains de ces narcotrafiquants, de ces djihadistes, de ceux-là qui ont imposé la charia de la drogue au nord du pays. Donc la France étant intervenue dans ces conditions et à la demande du président de la République du Mali, parce que subitement, les deux partis Touareg réunis à Alger, c'est-à-dire le MNLA et Ansardine, ont décidé de rompre tout accord et toute discussion avec Bamako et de foncer directement prendre la base de Sévaré et descendre vers le nord. C'est dans ces conditions-là que le président du Mali a demandé expressément à la France de prêter, de lui venir en aide. Il était préférable que ce soit des forces africaines, qu'une armée africaine soit montée au créneau et soit plus que mobilisée pour contrer cette descente-là. Elle était plus souhaitable que ce soit cela. Mais si ce n'est pas le cas, c'est la France qui a eu, le peuple français qui a eu des alliances, qui a été sauvé en 14-19 par les Maliens et les Africains en général, en 39-45, dont les Africains ont versé le sang. C'est tout à fait normal que face à une certaine irrédentisme, face à une certaine montée du terrorisme au Mali, face à cette menace qui nous vient d'ailleurs, où le Mali est obligé de payer pour un certain discours prononcé quelque part au Caire, ou encore pour la mort de Gaddafi, ou je ne sais encore quel printemps arabe, il est tout à fait normal que le Mali, en tant que république, se défende et cherche des partenaires à travers le monde pour sauver la république, sauver la démocratie, sauver l'état de droit et remettre une armée en marche. Le capitaine Sanogo fait partie de ceux, avec ce coup d'état du 22 mars, ont mis à terre la hiérarchie du commandement, ont permis à ce que ces villes soient vite récupérées par cette unité obscurantiste, par ces djihadistes, par ces narcotrafiquants, et ce lot s'est grossi. Il est parti du MNLA avec Acme pour donner aujourd'hui le Boko Haram, le Mujao, et que sais-je, encore d'autres combattants venus de l'Afghanistan, venus du Pakistan. On est dans une sorte d'internationalisme du djihadisme qui s'est réfugié dans cette zone-là. Et donc, demain, ce n'est pas Bamako seulement qui était menacé, c'était Dakar, c'était Ouagadougou, c'était ailleurs. Et on a des lobbies qui les ont soutenus de Doha en passant par Qatar à Ouagadougou et Alger. Ils les ont soutenus, ils ont lutté contre. Par contre, d'autres se sont opposés, ont dit non, on ne laissera pas ce projet satanique se faire sur les terres africaines. On ne va pas laisser le désert à vos portées. Donc ça, c'est une réalité.
Justement, nous allons également demander l'avis de notre invité Alain Jules. Alain Jules, il est bien vrai, le capitaine Sanogo l'avait soulevé, hein, que la France devrait normalement aider en logistique le Mali pour chasser les islamistes au nord du Mali. Et alors maintenant, c'est l'intervention des Français au nord du Mali. Et quelle est votre position, Alain Jules?
Oui, mais forcément, j'entends très bien, il est tellement facile de dire des djihadistes, des islamistes, des trafiquants de drogue. Ce langage martial, là, quand on a un ennemi, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que je suis désolé pour le confrère, parce qu'il a le langage de l'Occident. C'est-à-dire que chaque fois que l'Occident a un problème avec un chef d'État africain, vous savez, il devient dictateur, etc. J'en passe. Alors, de quoi s'agit-il réellement? Quand on regarde la situation, parce qu'il est trop facile d'accuser ces gens-là. Moi aussi, je les accuse. Je suis pas d'accord que des gens comme ça puissent exister, c'est-à-dire couper des mains, lapider des femmes, amputer, divers membres des personnes. Non, je suis tout à fait contre ça. Mais les qui permettent ça, les qui, entre guillemets, permettent que ces gens-là croissent? Les qui permettent ça? Il a parlé tout à l'heure de l'Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Est-ce que ce ne sont pas les États-Unis qui ont créé Ben Laden? Bien sûr que oui. Pour faire tomber Muammar Kadhafi, ces gens-là qu'on combat aujourd'hui, la France est alliée avec ces gens-là, avec Acme, pour renverser Muammar Kadhafi. C'est un secret pour personne. Et aujourd'hui, le pompier pyromane dit qu'il va sauver le Mali. Mais vous croyez en cette fable-là? C'est pour cela que je dis qu'il faut toujours, il faut connaître l'histoire. C'est très important. Parce que le fait qu'il est là, effectivement, ils sont arrivés au nord Mali, ils ont commencé à imposer leur point de vue qui n'est pas celui de tout le monde. On le sait très bien. Ils ont détruit d'anciens mausolées de saints musulmans, etc., de patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais voilà, il faut toujours revenir au fait que ce sont les Français qui ont permis ça en allant attaquer Kadhafi. Il n'y avait pas de problème en tant que tel dans le Sahel. C'est vrai qu'il y a des problèmes de drogue qui sont récurrents. On ne peut pas nier cet état de fait. Mais la drogue est consommée où? En Europe. Pourquoi les Européens ne sont jamais venus?
Justement, je suis d'accord avec vous, Alain Jules. Alors, qu'adviendrait pour le Mali si la France n'intervient pas militairement, Alain Jules?
Ben, les choses sont simples. On ne le dit pas. Hein. Les Maliens, l'armée malienne, comme par hasard qu'on accuse aujourd'hui d'exactions, avait commandé des armes, notamment à Tété. Il y a des armes que l'armée malienne a commandées, le gouvernement malien précédent a commandées, et on ne sait pas qui ont encore bloqué ces armes-là dans des ports, notamment à Conakry. Il faut le dire aux gens, il faut que les gens sachent ça. Donc il y a un vrai problème. Comment se fait-il qu'en cet État africain, on peut bloquer des marchandises? Vous comprenez tout de suite que ceux qui sont derrière, c'est bien sûr, c'est la France. Je n'ai rien contre la France, mais je dis que dans ce dossier malien, c'est la France le pyromane et c'est la France qui vient jouer les pompiers. Attendez, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Les troupes africaines pouvaient le faire, mais pourquoi les troupes africaines ne l'ont pas fait? On les a retardées. Il faut être honnête quand on traite un sujet. Les Français, sur le cas malien, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie.
Merci,
Alain Jules. C'est toujours la même logorée morbide et mortifère. Ils sont des criminels. Nous devons. Et eux-mêmes, ils sont quoi, des saints? La preuve aujourd'hui, on nous présente la France comme des gens qui font une guerre chirurgicale. Il n'y a rien, ils ne touchent à rien. Mais ce sont les soldats maliens qui, eux, font des exactions. Cherchez l'erreur, il y a un problème quand même.
Merci, Alain Jules. Nous allons également donner la parole au journaliste malien Tiambele Guimbara depuis Paris. Alors, autre information par rapport à cette intervention ou par rapport à cette guerre au Mali, le MNLA se désolidarise de Lansardine officiellement par un communiqué. Et le Lansardine ou bien le MNLA se dit prêt à aider la France pour ce combat. Et la France émet quand même des réserves. Hein. Tiambele Guimbara, est-ce que vous pensez que la France se méfie et ne croit pas quand même sur parole l'acte posé par le MNLA?
Oui, le MNLA, c'est d'abord ce par qui le mal est arrivé. Ce sont ceux-là qui se sont alliés avec ACMI pour commettre les événements du 17 janvier 2012 à Aguelok, où plus d'une centaine d'élèves sous-officiers ont été carrément tués atrocement. Et le MNLA, on ne peut pas les croire sur parole parce que le MNLA a revendiqué, a fait l'apologie du terrorisme. Quand on fait l'apologie du terrorisme, on devient un criminel dont le sort est entre les mains de la TPI ou de la CPI. Alors, tous ces gens qui ont commis des sévices, amputés, violés, tués au Nord-Mali, que ce soit du MNLA ou du Moujaou ou encore du Ansardine, doivent répondre de leurs crimes devant Fatou Ben Saouda et devant la TPI tout simplement. Mais au-delà de cet aspect, il y a une affaire quand même maliano-malienne. À 72 heures de l'intervention, le vaillant capitaine dont il décrivait les mérites, et avec les armes que le peuple malien a achetées et financées, était prêt à faire un coup d'État. Il était prêt à faire un coup d'État tout simplement, à renverser le régime, à imposer une sorte de concertation nationale et pour un comité de transition, je ne sais qui sort d'où, avec ses amis anarchistes qui étaient un peu à l'affût. Donc nous sommes quand même dans une situation où il va falloir situer les responsabilités. C'est vrai que le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Et comment ces combattants se sont retrouvés au Mali? Il y a des responsabilités qu'il faut citer.
C'est la vraie question.
Pour les ramener là. Et le Niger, ils sont passés par le Niger. Pourquoi ils ne sont pas rentrés au Niger? Pourquoi ils ne sont pas rentrés en Algérie? Pourquoi ils ne sont pas allés en Mauritanie? Donc, quelque part, il va falloir situer certaines responsabilités dans un débat inter-inclusif, inter-malien, pour penser les blés dans le cadre de la justice, dans le cadre de la République, de la laïcité, de la démocratie, du respect des droits de l'homme. C'est vrai qu'on parle d'exaction, et l'exaction, c'est quand même facile. L'exaction au Nord, c'est les événements d'Aguelgok. L'exaction au Nord-Mali, c'est ces 9 mois, 8 mois passés pour amputer en tuant des gens, des innocents qui n'ont rien fait pour mériter un tel sort. Alors si on doit corriger cela, si un peuple est debout pour corriger cela, avec son armée à l'avant-garde pour combattre cela, donc il doit être encouragé, il doit être soutenu. Les richesses du sous-sol malien appartiennent au peuple malien. Et ce peuple malien va se choisir des dirigeants après son réveil, après la traversée du désert pour diriger sa destinée. Et c'est à ces dirigeants-là de proposer des plans de gestion, de développement et de proposer où mener ce pays-là avec un projet coréen. C'est le peuple malien. Le dernier mot revient au peuple malien. Le peuple français est un peuple ami avec qui nous avions des liens anciens. C'est un peuple quand même qui a inscrit sur les tableaux d'honneur la déclaration universelle des droits de l'homme, la prise de la Bastille, et j'en passe. Le peuple malien est un vieux peuple qui a fait le pacte de Kourou-Kanfouga en 1226, qui a également fondé la République du Mali sur les bastions de la Fédération du Mali avec le Mali et le Sénégal qui n'a duré que 3 mois. C'est un grand peuple qui s'est battu en 91 au prix du sang pour instaurer la démocratie, qui se bat aujourd'hui pour contrer le printemps arabe, pour dire non à l'absurdisme, pour dire non à l'aveuglement, pour dire non à l'intolérance, pour dire non à l'instrumentalisation de la religion musulmane. Nous sommes musulmans, à plus de 90%, nous vivons avec des chrétiens. Nous sommes musulmans, à plus de 90%, nous vivons avec d'autres personnes qui ont d'autres pensées ou d'autres religions. Tous les Touaregs ne sont pas concernés par cette histoire. Tous les Touaregs ne sont pas des terroristes. Et tous les terroristes ne sont pas... Il n'y a pas que des terroristes également. Merci. Il n'y a pas que des noirs parmi les terroristes.
Justement.
Donc, il y a des
Merci.
Populations noires là-dedans. Mmh. Il faut comprendre cela. Il faut lever tous ces équivoques-là.
Merci. Merci. Et le Malien Tiambel Guimara depuis Paris. Et Alain Jules, hein, le MNL, a ce mouvement même qui revendiquait la souveraineté, la liberté, l'indépendance du nord du Mali. Et cette fois-ci, se désolidarise de la sardine. Mais la France émet des réserves. Hein. Pourquoi, selon vous, la France ne peut pas faire confiance au MNL, Alain Jules?
Je rappelle quand même que le MNL est reconnu par la France en siège en France. Donc, chercher l'erreur, il y a une petite nuance quand même à faire. Donc, en réalité, je viens de l'entendre vraiment dire tout l'amour qu'il avait de son pays. Ça, j'entends bien, c'est très important d'ailleurs. Et il a quand même soulevé un point qui est important, c'est le point des Touaregs. Le véritable problème de l'alliance des Touaregs, parce que quand il dit que le MNLA s'est allié aux islamistes, etc., mais c'est parce que les différents gouvernements maliens n'ont jamais pris en compte la question Touareg, la question de l'Azawad. C'est aussi simple que ça. S'il y avait une considération, une petite considération pour ce peuple-là par les autorités maliennes précédentes, on n'en serait pas là. Le Mali n'allait pas forcément être une citadelle, mais en revanche, le Nord n'allait pas connaître ce cas-là, c'est-à-dire que les Touaregs n'allaient pas, une série de Touaregs n'allaient pas se retrouver chez leurs frères, cousins, familles en Libye, n'allaient pas se retrouver en Algérie, etc. C'est-à-dire, je parle des Touaregs du Mali. Donc voilà, ce sont des réalités. Donc, depuis plus de 50 ans, ces gens-là ont besoin d'autonomie, ont besoin qu'on leur fasse confiance, ont besoin que leur zone soit développée. Il n'y a rien. Je crois qu'il ne me mentira pas. Comment se fait-il qu'une zone comme celle-là, pour avoir un hôpital, il faut faire des centaines et des centaines de kilomètres? Voilà le véritable problème. Or, si la France était un pays qui était ami du peuple malien, je crois que la France devait faire pression sur les différents gouvernements pour que cette zone-là soit développée. Voilà la réalité. Et donc, si on essaye de l'exclure comme ça, en incriminant ces gens-là, je me dis que quelque part, il y a une malhonnêteté intellectuelle. J'en veux pour preuve. J'ai eu dernièrement une discussion avec une personne, alors, qui est malienne, mais pour elle, l'intervention française, mais c'est génial parce que, voilà, on va mettre hors de tas des murs les Touaregs, je précise les Touaregs, c'est-à-dire des Maliens. Voilà, il y a beaucoup de gens au Mali, je ne dis pas que c'est la majorité, qui rêvent, justement, qui ont rêvé de cette intervention-là, pour qu'il y ait un génocide Touareg. Ça, je le dis et je pèse mes mots. Donc c'est très grave. Dans un pays, quand un pays est aussi parcellaire, et quand on arrive à vouloir que des gens de son pays, parce qu'ils sont du Nord, parce qu'ils sont des gens du désert, des gens du Sahel, meurent, c'est très grave. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que je ne leur trouve pas d'excuses hein, de s'allier à des monstres et tout ça.
Bien
non,
sûr,
je
ouais.
ne leur trouve pas d'excuses.
Bien
Mais
sûr.
Ce que je dis, c'est que les Maliens doivent vraiment comprendre que ces gens-là sont Maliens comme eux et envisager un futur avec ces gens-là, c'est tout. Donc maintenant, moi c'est pour ça que j'ai toujours la France et tout, etc., qui viennent sauver. C'est de l'escroquerie, je le répète encore une fois, c'est une grosse escroquerie.
Merci
si
Alain
les Maliens étaient unis, vraiment unis, les Touaregs eux-mêmes ne pouvaient pas accepter que ces gens-là rentrent chez eux. Vous comprenez ce que je veux dire?
Bien sûr que oui.
S'ils avaient une confédération, si on développait cette zone-là, comment les djihadistes pouvaient entrer dans cette zone-là? Ça allait être impossible.
Merci.
Donc, c'est ça la réalité.
Merci. Nous tirons pratiquement vers la fin de ce débat et également de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci de votre fidélité. La toute dernière question également au journaliste Tiambel Guimbara, journaliste à La Voix du Mali, en direct depuis Paris. Alors, cette guerre au nord du Mali doit interpeller tous les Africains, effectivement, les militaires africains, toutes les forces africaines, normalement. Mais jusqu'à présent, malgré que le Mali soit membre de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, cette communauté, Tiambel Guimbara, elle brille par son absence effective sur le terrain. Alors, peut-on dire que cette guerre au Mali n'est pas africaine, Tiambel?
Ça devrait être une guerre africaine, une guerre malienne, parce que au Mali, les Africains sont ce jeu. Et le Mali est l'un des rares pays qui, dans sa constitution, inscrit qu'il est prêt à renoncer à sa souveraineté pour la construction de l'Union africaine. Donc tous les Africains devraient faire du Mali leur terre. Mais cela n'a pas été fait parce que les Africains de la CEDEAO, à un certain niveau, ont joué quand même sur les différences, sur les divergences. La diversité du peuple malien, et c'est cette diversité qui fait sa richesse, autant sur le plan culturel que sur le plan politique. Mais il y a également une unanimité quand il s'agit de l'intangibilité des frontières et quand il s'agit de l'intégrité territoriale du Mali. Ceci n'est pas négociable et ce n'est pas discutable. En cela également, il faut comprendre que l'Azawad n'a existé que dans le rêve. On a connu l'empire du Ouagadou, on a connu l'empire du Mali, on a connu l'empire Songhai, on a connu l'état d'Amdalé, on a connu bien de royaumes Bambara, Peul et autres, mais on n'a jamais entendu parler d'empire à l'Azawad. Et tous les Touaregs ne se reconnaissent pas et ne s'inscrivent pas dans cette action-là. Tous les Touaregs, pour preuve, le bataillon qui se dirige aujourd'hui sur Gao, qui part de la frontière nigérienne, est dirigé par un Touareg, il s'appelle le colonel Gamou. C'est un intégré des années 90, un ancien rebelle. Donc tous ne s'inscrivent pas dans cette divergence-là et il n'y a pas de problème Touareg au Mali, il n'y a pas de problème minoritaire au Mali. Toutes les minorités se sentent bien là où ils sont. Mais ceux qui sont des criminels, ceux qui posent des actes contre l'intégrité territoriale du Mali doivent répondre devant la justice. Ça, c'est tout à fait normal. Et faire de cela un challenge, faire de ça une question Touareg, c'est se tromper, ce n'est pas connaître le peuple malien. Combien de temps nous avons signé d'accord? Combien d'accords ont été signés de 92 à maintenant avec la supervision de l'Algérie? Le Mali est victime de l'application de ces accords-là, la démilitarisation de cette zone qui a conduit à l'installation des bandits armés dans cette zone-là et ensuite a également conduit à mettre cette zone, ce grand désert, sous la tutelle de la charia, de trafic et de la rançon. On est, on en est là. Il faut tirer les leçons, organiser ce débat inclusif intermalien et les criminels répondent devant la justice et les autres fils s'assemblent, se rassemblent et bâtissent un pays auquel ils pensent.
Merci Tiambel Guimbara. Alain Jules, Tiambel Guimbara, lui, il est malien, hein, je le rappelle, il est malien et il avait quand même bien affirmé que cette guerre au Mali doit être africaine, mais le Tchad a attendu la présence des Français au nord du Mali avant d'envoyer environ 2 à 3 000 contingents. Est-ce que c'est de la sincérité ou du bluff, Alain Jules?
Ben forcément, je crois que le gouvernement tchadien a demandé qu'il soit payé, même d'ailleurs la CEDEAO. Hein, en réalité, je crois, moi j'ai entendu tout à l'heure le confrère dire que voilà, il n'y a pas une question Touareg, mais c'est très grave d'entendre des choses comme ça. C'est vraiment très grave. Alors qu'on sait très bien que quand ces gens-là sont arrivés au Nord Mali avec toutes leurs bandes de terroristes et tout ça, on connaît les revendications. Alors, nier la question de l'Azawad, c'est la même conversation que j'ai eue avec justement un Malien, c'est-à-dire pour lui, il faut détruire les Touaregs. Et puis l'exemple qu'il donnait tout à l'heure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route en disant, oui, mais vous savez, il y a un bataillon, celui qui tient ce bataillon, c'est un Touareg. Mais attendez, ça n'a aucun sens. Je suis vraiment désolé, mais ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est ça. Pourquoi ces gens-là ont pris le Nord-Mali? Vous croyez que c'est parce que ce sont des trafiquants de drogue? Ils revendiquent une autonomie, etc. Non, mais attendez, soyons sérieux. Vous savez que le Nord-Mali, c'est la zone la plus riche du Mali, qui est encore aujourd'hui inexplorée. Quand cette zone sera développée, on verra très bien ce qui va se passer. Donc maintenant, si certains ont des rêves, éradiquer tous les Touaregs pour profiter des richesses Touareg, enfin, pas Touareg, de la zone du Nord Mali, parce qu'il n'y a pas seulement les Touareg là-bas, c'est très grave. C'est justement ce genre de discours-là qui font que, effectivement, les Occidentaux arrivent dans nos pays, parce qu'on a toujours des traîtres, hein, vous savez, les Africains, c'est un peu ça, et du coup, arrivent à leur fin, tout le temps. Ça a toujours été ça, et ça sera ça. Parce que j'ai commis un article dernièrement qui est sur le site un site sénégalais. Ben, je vois des gens qui viennent m'insulter par rapport à l'article que j'ai intitulé Guerre au Mali, la naïveté africaine et la diabolique ruse française. Les gens viennent dire, mais oui, on était attaqués, il fallait vraiment que ces gens viennent intervenir. Et moi, je leur pose la question, une question très simple. Le premier village attaqué, c'est là où on doit réagir. Pas d'attendre un an qu'ils essaient de répondre à cette question-là. Pourquoi la France a attendu un an pour réagir? Que plus de mains soient coupées, que plus de actions soient commises. Attendez, soyons sérieux. Quand on veut défendre un État ami, quand ça se passe en Europe, vous savez comment ça se passe en Europe? Il n'y a aucun État qui peut aujourd'hui être agressé en Europe sans que les autres ne réagissent au quart de tour. Mais pour le Nord Mali, on réagit un an après. Pourquoi?
Merci.
Parce que ces mecs se rapprochent de la frontière du Niger et de l'Urénon.
Merci,
tout.
Merci.
Voilà.
En tout cas, merci à nos deux journalistes, Tiambel Guimbara. Il est journaliste à La Voix du Mali en direct depuis Paris. Il est également malien. Alain Jules, journaliste, blogueur, il est panafricaniste. Merci beaucoup à Tiambel. Tiambel, merci et bonsoir chez toi.
Merci. Bonsoir. Merci Alain Jules. C'est le futur Touareg du Mali. On va le baptiser Ak Intala. Il va s'installer à Kida.
Merci.
Une maison.
Merci. Alain Jules, bonsoir.
Bonsoir.
Merci.
Bonsoir tous les auditeurs.
Merci beaucoup. À bientôt. Hein. Au revoir. Eh bien, retour au studio dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nous allons commencer la deuxième partie de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et merci de votre fidélité.
VRA, Voix de la Résistance Africaine. Partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombé, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mon laïnyan. Manejamo Africa, moi sonyo natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kondiamo Africa, mon laïnyan. Manejamo Africa. nyonada